Dégenrer, l'émission pour déranger, une émission féministe sur Radio Kaleidoscope 97 FM, les 2e et 4e mercredis du mois. Bonsoir. Alors ce soir, dégenré avec plein de femmes autour de cette table. Voilà, donc en fait, on va aborder en fait ce soir un peu les questions des répercussions qu'ont eu la loi Stasi. Donc pour résumer très vite, c'est donc la loi qui interdit donc les signes religieux à l'école, mais les signes ostensibles, enfin bon, on viendra plus dans les détails, et qui notamment a eu pour effet d'avoir plein de poser plein de difficultés aux jeunes femmes qui portent le voile. Et donc nous, c'est vraiment là-dessus qu'on avait envie de revenir, de voir justement tous les aspects, on va dire, discriminatoires qui ont été répercutés sur les jeunes femmes qui portent le voile. Et donc on a trois invités avec nous ce soir. Voilà, bonsoir.
Bonsoir.
Donc il y a donc Bouchra, Saïda et Mélanie. Donc je ne sais pas si vous voulez vous présenter en quelques mots, si vous avez quelque chose à ce niveau-là.
Ben, en fait, je m'appelle Bouchra, j'ai 20 ans et je viens d'avoir mon bac. Donc on a un petit peu vécu cette loi Stasi et par la suite, on vous racontera le vécu.
Le plus en détail, très bien.
Ouais. Donc moi c'est Mélanie, j'ai 18 ans et puis c'est pareil, je raconterai un peu mon vécu, c'est pas sur le plan de l'école mais professionnel.
D'accord.
Bonsoir, moi c'est Saïda, donc je suis le porte-parole du comité 15 mars et liberté, donc on verra par la suite plus en détail ce qu'est ce comité et comment il s'est mis en place.
Voilà, sachant que pour préciser, le 15 mars en fait c'est le jour de l'adoption de la loi
sur la laïcité, voilà.
Voilà, d'accord. Pour commencer déjà, on va peut-être présenter un peu cette loi Stasi pour avoir des clés de compréhension tout au long de l'émission.
Oui, voilà. Alors cette loi qui donc s'appelle Stasi d'après d'après le nom de la personne qui a mené l'enquête en fait pour la préparation de cette loi. Cette loi, alors, elle interdit le port de signes ou de tenues par lequel les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Et lorsqu'un élève méconnaît l'interdiction posée à la ligne précédente, le chef d'établissement organise un dialogue avec cet élève avant l'engagement de toute procédure disciplinaire. Il y a eu dans les débats autour de cette loi tout un débat autour des termes en fait précises utilisés dans la loi, où c'était est-ce que c'est ostensiblement, est-ce que c'est ostentatoire, ce qui a été retenu c'est la manifestation ostensible d'une appartenance religieuse. Et donc ostensible, ça veut dire simplement apparent, visible. Voilà. Et donc un des autres aspects, c'est l'idée que le refus en fait de, par exemple, enlever un signe ostensible d'une appartenance religieuse comme le foulard ou autre, et ben que ça peut mener à l'exclusion, enfin à une procédure disciplinaire qui peut amener à l'exclusion de l'école, mais que l'idée c'était de que avant cela il y aurait une phase de dialogue.
Et, voilà, oui, tout à fait.
Peut-être tu peux expliquer un peu comment était pensée, enfin, ou présentée, en fait, cette phase de dialogue.
Donc, la phase de dialogue consistait, en fait, à amener déjà un réel débat entre les deux parties, donc l'élève et l'établissement, afin de trouver un compromis. En aucun cas, la phase de dialogue devait, dès le départ, instituer une exclusion ou faire comprendre à l'élève qu'il serait exclu s'il refusait d'enlever son signe ou son signe tel que le foulard, par exemple.
Donc on verra vraiment au cours de l'émission en quoi, ça c'est le texte de loi qui déjà nous pose problème à plein de niveaux. Après, on verra en plus comment dans l'application ça a été vraiment terrible pour les jeunes femmes concernées.
Et donc nous, on voulait aussi un peu revenir rapidement sur un peu la question de la médiatisation qu'il y a eu vis-à-vis de cette loi. Parce que par exemple, je ne sais pas, il y avait des chiffres, par exemple, on en a beaucoup plus parlé dans les médias que d'autres lois qui sont passées, comme par exemple, je ne sais pas, à la même époque, il y avait la réforme de la sécurité sociale qui pose aussi par exemple, des problèmes, des questions. Et nous, on en a par exemple beaucoup moins parlé. Et donc, dans toute cette médiatisation, il y avait deux trucs qui étaient amenés. Donc, c'était l'histoire de laïcité et aussi l'histoire d'égalité des sexes, d'égalité entre les hommes et les femmes. Et ce point-là, c'est pas retenu dans le texte de la loi, mais c'était presque même plus, autant mis en avant que l'histoire de laïcité dans les débats. Et voilà, nous déjà, on voulait un peu, sur cette histoire de laïcité, rappeler ce que c'est. Et la laïcité, normalement, c'est la neutralité de l'État qui, justement, garantit la liberté de religion des usagers et usagères. Et donc, on voit pas en quoi, par exemple, le port du voile à l'école remet en cause cette question de laïcité, vu qu'il s'agit justement des usagères, les élèves. Et déjà, par rapport à ça, il y a vraiment aussi une hypocrisie, parce que si on regarde, par exemple, les manuels scolaires en général, dans l'enseignement, ils sont vraiment emprunts d'une, on va dire, mentalité judéo-chrétienne et de référence beaucoup au catholicisme principalement. Et qu'on peut aussi voir, par exemple, j'ai l'impression, le maximum de l'absurde, c'est la situation de l'Alsace, où il y a une dérogation donc, pour l'Alsace par rapport à la loi sur la laïcité, et qui fait que l'enseignement de religion, mais alors du coup les religions c'est...
Le catholicisme, tout ce qui relève de du christianisme en fait.
Mm-hmm. Ouais, et en fait partie du programme scolaire, il faut que les parents fassent une dérogation, une lettre qui précise que l'élève par exemple ne va pas y participer, et que ces professeurs-là sont payés par l'État. Donc, ce qui, au niveau de la neutralité de l'État, là, ça montre quand même bien un truc de contradiction. Donc, voilà, pour résumer vite fait par rapport à la laïcité et par rapport à tout cet argument sur l'égalité des sexes. Moi, ce que je trouve hyper frappant, c'est tout d'un coup tous ces hommes politiques qui, d'habitude, n'ont rien à faire d'où tout ce qui est question de féminisme et de revendication, justement, d'égalité homme-femme, qui se mettaient à brandir ça à tout bout de champ. Sachant aussi que, par exemple, aucune féministe n'a été consultée par la commission Stasi dans les personnes qui ont été interrogées, ni d'ailleurs aucune jeune fille qui portait le foulard n'a été auditionnée non plus. Donc déjà, ça commence bien, parce que ça fait... vraiment, on parle à la place des personnes elles-mêmes. Je ne sais plus où je voulais en venir.
Oui, on peut même dire là-dessus que justement, il y a une énorme preuve de sexisme dans le comportement aussi des dirigeants politiques, parce que justement, en fait, ils clamaient haut et fort que oui, ils ne voulaient pas auditionner des jeunes femmes portant le voile parce qu'elles étaient trop endoctrinées, en gros, elles ne savaient pas ce qu'elles disaient, donc on ne pouvait pas les écouter. Et donc, c'est quand même incroyable, quoi.
Oui, puis en plus, c'était aussi vraiment tout ce discours qui revenait, où il y aurait cette espèce d'idéalisation que dans la République, en France, on va dire dans la majorité, il n'y a plus de sexisme, tout va bien, c'est l'égalité homme-femme, et qui montrerait en fait les personnes d'origine ou descendantes de parents immigrés, et c'est là plus que là qu'il reste le sexisme, alors qu'il y aurait une image que dans le reste de la France, il n'y en a plus, alors ce qui est complètement faux, ce qu'on rappelle dans des genres toutes les émissions. Et donc c'est vraiment ce truc de voir les histoires de sexisme que chez les autres, de marquer une différence, et du coup, ce qui vient en fait que la loi, qui est aussi un des aspects en quoi cette loi est raciste en fait, quoi, c'est de dénoncer le sexisme que dans une partie de la population qu'on stigmatise. Donc voilà, je pense que on développera plus après en quoi on trouve que c'est une loi sexiste et raciste et en quoi ces deux types de discrimination se croisent. Et pour l'instant, on va faire une petite pause musicale et on va écouter un morceau de la rappeuse Kazay qui s'appelle Dans nos histoires et qui parle justement du colonialisme et néocolonialisme français.
Ces remparts qui m'ont vu naître, m'ont vu grandir et puis me verront disparaître. laisser les nôtres qui sont au centre pour subir la peur ou la faim au ventre. Fléchir à chaque fois devant chef et maître et réfléchir à tout ça le soir quand il rentre. On nous maltraite de 20h à 20h30. Nos vies font les gros titres dans leurs chapitres. Les journalistes flippent et leur cœur palpite. S'inquiètent qu'on fasse sauter sous tes cockpits. Y'a pas d'espoir dans mon périmètre. Ma cote est nulle à leur applaudimètre. Tu peux me croire, faire l'étonner, sourire avec ironie. C'est le point de vue des damnés, des colonies. Tu peux me croire, y'a pas d'espoir. Y'a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire, y'a pas de victoire. Y'a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire, y'a pas d'espoir. Y'a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire, y'a pas de victoire. Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
Donc vous êtes bien sur Dégenré, donc ce soir donc on aborde un peu les répercussions de la loi Stasi donc qui interdit entre autres le port du voile à l'école. Ben nous en fait justement contrairement à la classe politicienne on va dire on essayait justement de voir déjà de voir un peu qu'est-ce que ça produisait chez les premières personnes concernées voilà parce que ça c'est aussi quelque chose dans les médias dont on a très peu entendu parler c'est-à-dire que tout le monde s'est emparé de cette question-là hein, c'est devenu un vrai véritable phénomène de société sauf que au final il y a plein de gens voilà qui se faisaient des opinions là-dessus, qui ne connaissaient pas de personnes musulmanes qui portaient le voile ou des choses comme ça. Donc nous, déjà, on se disait qu'on avait envie peut-être de prendre un petit peu comme ça des paroles de femmes un petit peu au hasard de rencontres. Donc c'est ce qu'on a fait au cours d'un micro-trottoir. Voilà, de leur demander un petit peu comment elles ont vécu depuis l'application de cette loi, qu'est-ce que ça a créé déjà dans leur vie. Donc voilà, il y a des femmes qui ont différents parcours, tout ça, donc vous allez entendre tout ça.
Moi, à la base, quand la loi est sortie, j'avais pas le foulard, donc ça ne m'avait pas forcément touchée personnellement, mais j'avais participé à un colloque au Bourget, à Paris, qui rassemble tous les musulmans de France. Ils avaient parlé justement de ça, des problèmes que les filles rencontraient, qu'il y en avait certaines qui étaient obligées d'arrêter l'école, que leurs parents les renvoyaient carrément dans leur pays d'origine. Je sais que ça m'avait carrément bouleversée au point que j'en avais pleuré. Mais sur le coup, ça m'a rien fait. Je l'ai plus ressenti quand je l'ai mis il y a un an et demi. Et quand j'ai dû l'enlever, justement, au début, j'étais à la fac. Donc ça me posait pas de problème. Et les gens non plus, j'ai jamais ressenti de contraintes, des personnes qui sont venues pour me faire des remarques ou quoi, au contraire, j'ai que des bonnes remarques. Et puis quand je suis rentrée au lycée, c'est vrai que ça, en BTS, ça fait bizarre en fait de l'enlever à chaque fois et de le remettre, sachant que je vois pas pourquoi c'est fondé, vu que les profs ils savent que je le mets, tout le monde le sait que je le mets, donc s'il doit y avoir des discriminations, on en a quoi.
Et est-ce que tu as pu observer ou tu as fait des expériences aussi de situations où c'est en dehors de l'école en fait, en dehors du contexte de l'école, mais peut-être dans d'autres espaces publics, dans la rue, dans des administrations.
Dans le bus, notamment. Le chauffeur du bus qui nous voit à l'arrêt et qui passe alors que le feu il était orange et qu'il n'y avait personne d'autre à l'arrêt.
Ah oui,
qui s'arrête pas. Il y en a qui tournent la tête, qui disent même pas bonjour alors que moi je m'en fous, je souris, je leur dis bonjour, ils me répondent pas, c'est pas. Voilà quoi. Sinon, à part ça, c'est vrai que non, j'ai eu des réflexions de personnes âgées, mais c'était que des bonnes réflexions, au contraire. Enfin, des visages de haut en bas, surtout, elle disait, ah, une personne qu'elle voit aller, qui a des baskets Adidas, ça paraît bizarre. Alors que, voilà, on est normaux, quoi. Je sais pas. Et sinon, non, des amis, ça leur est arrivé avec des caissières, qui croyaient qu'elles ne comprenaient pas le français, alors qu'on est toutes étudiantes, enfin, la plupart, Il y en a qui ne comprennent pas, oui. La plupart, elles sont étudiantes, elles ont des docs, des maîtrises, elles ont... Elle dit « Excusez-moi, vous comprenez le français ?» Et puis la personne lui dit « Bah, monsieur !» Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu gênant. Elles ont l'image de la femme musulmane soumise, qui ne va pas à l'école, qui ne comprend rien, alors que c'est pas vrai. Il y a eu une fois, il y avait une journée d'intégration, au début de l'année. Donc on devait faire une sortie. Moi, je suis arrivée avec mon goûter et tout. Et quand je suis arrivée, il y avait le directeur qui m'a dit que dans mon voile... Donc j'ai dit que ce n'était pas à l'intérieur du lycée. Il m'a dit « C'est quand même dans le cadre du lycée. » Donc il m'a fait enlever le... Il a voulu que j'enlève, donc j'ai pas voulu. Je suis partie. Et les autres personnes, les filles de ma classe, elles sont venues, elles sont allées voir les professeurs, elles sont allées voir le directeur. Bon, il n'a pas voulu, je suis quand même rentrée. Et après ça, les filles de ma classe, elles sont venues me voir, elles voulaient faire une lettre et tout ça. Je leur ai dit que c'était pas la peine. Mais il y a quand même, je vois que les personnes, enfin, notamment de ma classe, ils sont vachement solidaires et pour eux, ça les dérange pas. Donc, si tu pourrais rajouter, ben, tout simplement qu'on est des personnes comme les autres. C'est juste les convictions religieuses qui changent, mais notre caractère, on rigole, on s'amuse, on... Enfin, je veux dire, on est exactement pareil, quoi, avec nos défauts comme nos qualités.
Disons que, bon, quand on va aller faire chercher du travail, ouais, est-ce que vous êtes musulman, portez le voile, bon, ben, il y a de, quand même, on sent que la personne, on sent que la personne, elle nous reçoit, oui, d'accord, on vous appellera. On vous appellera, et puis, bon, ben, il y a une porte qui se ferme à notre nez, donc parce qu'on porte le voile parce qu'on est musulman, et ça c'est pas normal parce que moi je suis à la recherche d'emploi pendant des années et à cause de ça que je ne peux pas trouver du boulot parce que je porte le voile. Et moi je préfère mettre à terre, mais enlever mon voile, non, c'est pas possible.
En fait, je sais pas pourquoi cette loi elle est sortie. On est des gens comme les autres. Et le foulard, foulard c'est pas quelque chose qui est méchant. Foulard, c'est notre religion. En fait, foulard, c'est, je sais pas pour vous c'est quoi, mais pour nous les musulmans, c'est quelque chose qu'on peut pas enlever. Mmh. Voilà.
Et est-ce que vous avez fait des expériences de discrimination ou de d'attitude hostile ou je sais pas.
Non, jamais. Jamais. Ah oui, jamais. Je peux pas mentir là. Dieu merci, si tous les gens ils nous respectent, soit les juifs, les chrétiens. Ben, moi je voulais dire tous les gens, soit les chrétiens ou les juifs ou les musulmans, tous les gens, le foulard, ça. Foulard, c'est pas quelque chose qui est méchant. Foulard, c'est notre religion. Moi, de toute façon, je parle de moi, je peux pas enlever foulard. Même si je mors à cause de foulard, je ne peux pas enlever, ça c'est sûr. Mm-hmm. Et je porte foulard, c'est pas à cause de mon mari, à cause de... Je porte foulard, c'est pour moi.
Comment tu t'es sentie concernée en fait par la loi concrètement en fait, qu'est-ce que ça a changé pour toi?
Ben, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Comme ça existe, comme je suis tunisienne et ça existe déjà en Tunisie, donc ils n'acceptent pas là-bas. Donc voilà, on est tous déçus, quoi. Mais
toi, du coup, vu que t'es encore scolarisée, tu le vis comment, ce truc de devoir gérer, de l'enlever à l'intérieur?
Je sais pas, je me dis que c'est comme ça, c'est la loi, je sais pas.
Je sais pas, est-ce que t'as senti, toi, par exemple, de la solidarité, ou c'était quoi les autres réactions des élèves, par exemple,
aucune solidarité, alors là. Là, c'est sûr, il y avait rien, je sais pas. On aurait voté une autre loi, peut-être ils auraient bougé, mais là, sur ce loi-là, personne, quoi. Vraiment pas. Et je peux même dire, même au lycée, ceux qui bossent, et même sans cette loi, avant que cette loi ne sorte, et ben le lycée, il était pas pour, quoi, il était contre. Même ceux qui sont, ils regardent s'il y a qui le porte, ils veulent savoir pourquoi on le porte. Je vois pas pourquoi, voilà, on a envie de le porter, c'est comme toute chose, je sais pas, on a envie de s'habiller comme ça, voilà.
Sinon, est-ce que t'as senti, du coup, depuis la loi aussi, des changements dans les attitudes des gens dans la rue, ou alors des fois, il y a eu des témoignages dans, je sais pas, des administrations, quoi, des...
Maintenant, ils acceptent, moi, je trouve qu'ils acceptent moins le foulard, quoi, mais voilà. Sinon, discrimination, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, voilà.
On voulait savoir si vous, en tant que mère de famille, si aussi c'est une loi qui avait pu vous poser problème, un peu, différents niveaux.
Moi personnellement, ça m'a pas posé de problème parce que vu que je travaille pas, donc surtout pour ça, et vu que j'ai trois garçons, j'ai pas de filles, donc ils vont pas porter le voile eux aussi, donc ça me pose pas de problème. Par contre, pour les jeunes qui sont au lycée, ça c'est vraiment un cauchemar, ça.
Vous connaissez des filles pour qui ça a été dur?
Oui. ils étaient renvoyés de l'école et là, ils sont à la maison, quoi. Ils sont pas à l'école. Donc, c'est vraiment difficile. Moi, en fait, j'étais étudiante en Algérie. Donc, j'ai eu ma bourse d'études. Là, je suis venue là pour faire un DEA. Et j'étais dans un laboratoire de rhéologie et c'était très difficile avec le directeur. Chaque fois, il me pose des questions. Pourquoi vous portez le voile? Pourquoi vous êtes toujours comme ça? Donc, et après, j'ai passé 2 ans et après, j'ai arrêté. Toujours la même question. Pourquoi vous portez le voile? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Donc, c'est très difficile à vivre, ouais.
Et qu'est-ce que vous pourriez aimer vouloir dire peut-être au gouvernement ou choses comme ça qui font ces lois qui finalement sont très difficiles pour les femmes après?
Ils les laissent comme ils sont. Hein. Il y a des musulmanes, il y a des juifs, il y a des chrétiennes. Donc chacun il a sa religion. La religion, c'est pas, par exemple, on porte le voile qu'on est terroriste ou qu'on est... Non, c'est pas ça. Moi, je porte le voile et je suis bien avec tout le monde. Donc c'est pas... Et la plupart des jeunes filles qui portent le voile ou des mamans qui portent le voile, ils sont bien.
Et par exemple, là, vous accompagnez vos enfants à l'école, par rapport aux institutrices ou quoi, vous avez senti un regard qui a changé après la loi ?
Ils sont très gentils, les institutrices, donc il n'y a pas de problème.
Seven platoon general, burn haze, follow by freaking them black and mouths, intoxicated flows, juice mites and snub nose, hip hop serial killer, strangle them, seize them, mic cord, choke them out while he on stage, the crowd applaud, underground, underworld, coming through the surface, got that raw shit for you to purchase, hit the airwave and circuit, across the board, platoon 54, state tour, ghetto invasion, one lot of one thug nation, I'll be a legend, to my little man generation, to the projects in Little City, and to them PJs in Ghost Town, with thugs lay they Mac down, my motto, my jury, your clip, my judge, a 4 pound, I lay them hollow point rounds, bag body like clips of blow, this is butter, butter, but you don't know. It's Bob King and A.B. Divine spitting the rhetoric. If you people ain't prepared, you better get ready for that crew coming to you live and down in the gutter. Let them know, so.
My rhymes are like butter.
Trying to digest my mental progress, your brain could fail. The way I spit it on the track, I make trains derail. I'm ahead of my time in this game as well. You're playing Jane, putting tame dames, lame as hell. If you're blind to the facts, feel the pain in braille. From the wickedest, acidic, hottest flame you felt. Bob the Lion King, Gobbleen, the tame to tell. Or how you niggas rock, all sound the same as hell. Forget the forgotten, this is how I rip when I'm rocking. Ripping the raw, see I'm the door, quit with the locking. Getting in now? How? When I'm ripping it down. True to my form, see I'm the storm, hitting your town. Columbia suit, fuck you in the gun that you shoot. Mine's cock, dies what you do in your boots. Looking for beef, we the wrong crew to dispute. It's when we hit done, one gun's cute, but look, it's my shit. King, alien soul time, spitting that rhetoric. If you people ain't prepared, you better get ready for that crew coming to you live and die from the gunner. Let them know, so.
My rhymes are like butter.
It's my king, alien soul time, spitting that rhetoric. If you people ain't prepared, you better get ready for that crew coming to you live and die from the gunner. Let them know, so.
My rhymes are like butter.
êtes sur Dégenré et on vient d'écouter un morceau de Sultana qui s'appelle Kaimak. Et donc l'émission de ce soir, c'est sur les conséquences et les répercussions de la loi Stasi interdisant entre autres le port du voile à l'école. Et alors juste avant le morceau, on a entendu quelques témoignages que nous avons enregistrés dans la rue. Et voilà, alors on est aussi là avec nos trois invités. Et, est-ce que vous voulez un peu raconter vos expériences en fait avec cette loi ?
Donc c'est Mélanie. Et déjà je voulais réagir par rapport à un témoignage. De la jeune fille qui passait en BTS ce que je voulais dire, c'est qu'elle est plus jugée sur ses compétences à l'école. En tant qu'élève, on oublie carrément ses compétences à l'école et on se focalise sur son voile. Car ça pouvait être une jeune fille qui travaillait bien à l'école et on se focalise que sur son voile et on oublie ses notes. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'à la base, l'école, c'est fait pour se cultiver, c'est fait pour étudier. Et ça devient, voilà, on se focalise que sur l'aspect physique de la personne et non sur ses compétences.
Oui, et même sur ses choix, hein, c'est ça. Et peut-être, c'est ça, enfin, n'hésitez pas soit à réagir à ce que vous avez entendu et puis peut-être après à parler de situations que vous avez pu rencontrer.
Voilà, donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de... Enfin, quand j'ai intégré le comité, j'ai d'abord été victime de cette loi, donc je me suis présentée, j'étais en deuxième année de BTS, je me suis présentée les trois premiers jours avec un foulard, en souhaitant en fait, justement pendant la phase de dialogue, trouver un compromis qui serait satisfaisant et pour eux et pour moi. Donc voyant que qui n'ont pas du tout souhaité de trouver un compromis, parce que dès le départ on m'a fait un récapitulatif de la loi et puis on m'a dit bah écoute, c'est soit tu l'enlèves soit tu passes en conseil de discipline, donc j'ai pas trop eu le choix et puis j'ai voilà. Donc comme j'ai souhaité après mettre trouver vraiment, leur montrer que j'avais vraiment envie de trouver un compromis. J'avais mis à partir du... Donc ma rentrée c'était 6 septembre, donc à partir du 9 septembre j'avais mis un bandana. Et pour eux ça avait, je veux dire, ils disaient non, tu n'as pas un bandana, tu as un foulard. Donc ils ont vraiment interprété ça à leur manière et donc c'est vrai qu'on est rentré dans 4 mois soi-disant de dialogue que j'ai plus vécu comme du harcèlement et de l'isolement. Voilà.
Oui, c'est ça, on pourra revenir dessus un peu sur ces 4 mois, savoir un peu ce qui s'est passé, mais peut-être, Bouchra, tu voulais réagir aussi.
J'ai porté le voile au cours de l'année, donc la voile a été votée, appliquée. Donc du jour au lendemain, c'était les profs qui s'approchaient de moi et me regardaient de haut en bas. Il n'y a pas eu vraiment de dialogue, c'était ou je l'enlevais ou sinon je passais en conseil discipline. Et donc pendant 6 mois, c'était de l'harcèlement, on m'isolait, on essayait de me culpabiliser, on disait « ouais, le voile, ça, t'es soumise, est-ce que c'est ton fiancé qui t'a forcé, est-ce que c'est ton frère, est-ce que c'est ta mère, est-ce que tu veux pas qu'on leur en parle ?» On a essayé de me l'enlever carrément, des fois les profs envoyaient les élèves et leur demandaient quand j'allais l'enlever. Ou sinon, en pleine classe, la prof, elle me disait « alors, c'est quand tu l'enlèves ?»
Juste quand tu dis « on a essayé de te l'enlever », c'est physiquement ?
Non, pas physiquement, c'est moralement. En fait, les filles, elles venaient me voir en me disant « alors, tu vas bien t'en enlever le voile ?»
Ouais.
Après, j'ai été convoquée aussi par la CPE. Aussi, elle a essayé de me faire changer d'avis. Ensuite, pendant le conseil de classe, quand c'était au mois de juin, me semble, en fait, autour de la table, j'avais des difficultés comme tout le monde. Mais à aucun moment, on m'a parlé de mes difficultés en classe ou en cours. On m'a parlé mot pour mot, je vais vous raconter mot pour mot. En fait, on m'a dit que j'écoutais trop le Coran dans ma chambre. Donc, je ne sais pas s'il y avait des caméras dans ma chambre, là. On me disait que je ne m'intéressais pas à la vie de mes camarades. On m'a dit que si j'avais des bonnes notes en histoire géo, c'est parce qu'on a fait une leçon sur la religion, alors que c'était les trois grandes religions. C'était plein de réflexions sur l'islam et en aucun cas sur mon niveau
scolaire. Ensuite, en fait, pendant mon stage, il y avait un prof qui est venu pour voir comment ça se passait. Auparavant, ils ont convoqué ma mère, en fait, en essayant de la culpabiliser ou de l'influencer pour que je puisse enlever le voile aussi. Donc, on m'a dit, tu t'habilles trop en noir, tu traumatisais les élèves avec un accessoire c'était un bandeau. Ensuite, ils ont dit à ma mère comme quoi je ne trouverais jamais de boulot ni de stage. Par la suite, j'ai trouvé heureusement un stage dans une administration. Le prof, c'était une femme, elle est venue me voir. Et en fait, j'ai essayé de lui faire comprendre comme quoi je n'acceptais pas le redoublement. Parce qu'en aucun cas, c'était des arguments sur mon niveau scolaire. Et du moment que j'enlève le voile et que je respecte le règlement d'intérieur, parce qu'il faut savoir qu'au Charmy, c'est une école en fait, catholique et semi-privée. Et normalement, on a le droit de porter le voile. Et là, j'ai essayé déjà Donc, comme il n'y avait pas de dialogue, j'ai essayé de me soumettre à leur règlement d'intérieur. Malgré ça, donc, la prof a essayé de me dire « Ouais, il faudrait accepter le redoublement et tout. » Donc, j'ai essayé de lui dire que si je redouble, bah, déjà, je ferai appel et je porterai plainte pour harcèlement et discrimination. À partir de là, elle a commencé à me donner des noms de certaines profs, celles qui n'aimaient pas forcément ma tête ou ma religion, je ne sais pas. Et en fait, à partir de ce jour-là, ils ont essayé d'être plus ou moins corrects, mais ça a continué quand même, en plein DS important, me convoquer. Les sorties scolaires, en fait, il n'y avait pas trop de sorties scolaires, donc il y avait plein de choses comme ça.
Tu veux intervenir peut-être ? Donc moi je voudrais intervenir au niveau du comité. C'est vrai qu'on a recensé beaucoup de cas comme Bouchra, donc de jeunes filles qui ont subi du harcèlement pour lesquelles elles n'étaient pas jugées sur réellement leur tous les efforts scolaires qu'elles pouvaient faire. Donc ça n'avait plus aucune importance. Donc les professeurs se sont vraiment permis de porter un regard critique sur le voile, sur leur choix personnel en tant que musulmane voilée. C'était plus, je veux dire, il n'y avait plus de rapport entre professeur et élève. Il y avait vraiment un rapport de maître à esclave, en fait, c'était ça. Donc c'est vrai qu'on a recensé beaucoup de cas comme ça.
Et voilà, alors du coup, parce que on est vraiment sur le lycée et sur l'application de ces lois et de voir comment c'est allé très très loin. Enfin, on a vraiment l'impression effectivement que ça fait ressurgir une violence chez les gens et tout. Donc peut-être voilà, après on pourra creuser un petit peu de ces situations-là. Mais je crois que du coup, Mélanie, toi aussi, ce qui est assez terrible, c'est de voir aussi comment ça a des répercussions dans tous les autres milieux et aussi dans le milieu professionnel. Ouais.
Donc oui, moi j'ai beaucoup de problèmes avec mon voile, sachant que je travaille donc en animation avec des enfants, mais nous dépendons du ministère de la Jeunesse et des Sports et il n'y a pas de loi sur la laïcité. Simplement, maintenant les directeurs se permettent, sous prétexte qu'il y a eu une loi sur la laïcité dans l'éducation nationale, se permettent donc de faire des entretiens. Donc pour ma part, moi, c'est lors d'entretiens professionnels, on me pose des questions très indiscrètes sur ma religion. On me persécute sur ça. Moi, je travaille avec un petit bandeau, enfin un petit foulard, un bandana qui cache mes cheveux. Et récemment, lors d'un entretien professionnel, la directrice m'a demandé ce que j'avais aux cheveux, si j'avais un problème. Donc c'est une question très indiscrète parce qu'on peut effectivement avoir un problème. Et donc je lui ai signifié qu'on était dans un entretien professionnel et qu'on ne pouvait pas, qu'il ne fallait pas dépasser ce cadre-là. Et elle a commencé après sur d'autres questions en me demandant si moi je faisais manger du porc aux enfants, si je leur faisais manger de la viande et tout ça. Donc c'est vraiment des questions très indiscrètes et voilà, ça se répercute. Voilà, donc cette loi, elle est à la base pour l'éducation nationale et maintenant elle se répercute donc dans le milieu du travail où il n'y a pas de loi qui interdit le port du voile. Hein. Enfin, le ministère de la Jeunesse et des Sports n'interdit pas, c'est eux-mêmes qui me l'ont dit. Et on se permet, voilà, donc moi, sous prétexte qu'on sait que je suis voilée, le bandana donc, est aussi un accessoire de mode. Et on m'interdit de mettre un petit foulard sur la tête parce qu'ils savent que je suis voilée. Et c'est pareil pour la piscine et pour plein de choses où on demande carrément d'oublier ses valeurs.
Et donc tu disais que, bon, là tu cites un exemple précis de situation professionnelle, mais tu disais que ça s'était reproduit plusieurs fois dans tes recherches d'emploi.
Ça, en tout, là ça m'est arrivé trois fois, mais c'est trois fois où ça s'est enchaîné en fait. Donc ça a commencé cet été au mois de juillet. Donc je travaillais avant dans une structure où les parents m'ont toujours bien acceptée. J'ai jamais eu de soucis avec, justement, je mettais un petit foulard, mais les parents savaient que j'étais voilée. Ça n'a jamais posé de problème. Et puis, ça a commencé cet été, donc j'ai fait un entretien avec un jury. Donc, c'est vraiment un jury. J'avais un petit foulard sur la tête, ça n'a pas posé de problème. Donc, on a reconnu mes compétences professionnelles. Et ça a continué, en fait. Donc, quand j'ai dit que je ne voulais pas me baigner, en expliquant bien mes raisons, en essayant de discuter avec la directrice... sur le coup, donc, elle n'a pas eu de réaction. Elle m'a appelé deux semaines après au téléphone. Enfin, elle m'a appelé et elle m'a demandé de venir. Carrément, c'était dans une mairie, à la mairie. Et là, j'avais une personne assez haut placée de la mairie. Donc, j'étais vraiment un peu, voilà, séquestrée, comme ça se passe à l'école dans les dialogues. J'étais séquestrée. Heureusement, j'avais ma maman qui m'accompagnait. Mais j'étais face à ces deux personnes qui me posaient des questions et qui me séquestraient un peu et qui... voilà, c'est vraiment déstabilisant. Et puis ça m'est arrivé encore une deuxième fois cet été où là on m'a demandé de venir, on m'a sorti la loi sur la laïcité, on m'a demandé de la lire devant la personne et on a souligné en jaune en fait le côté où dans la loi c'est marqué que par rapport à l'EPS, enfin par rapport à la piscine, on l'a souligné en jaune fluo carrément pour me signifier que moi j'étais obligée de me baigner parce que c'est comme ça dans la loi sur la laïcité. Mais moi, je ne dépends pas de la loi. Donc, c'est ça qui est drôle, quoi.
Tu n'es plus du tout une élève.
En plus, voilà, je ne suis plus du tout une élève. Donc, c'est les enfants qui se baignent, ce n'est pas moi. Et donc, ça s'est reproduit. Puis, ça s'est reproduit là récemment encore. Donc, ça ne m'était jamais arrivé parce qu'avant, je n'étais pas voilée, en fait. Et maintenant, voilà, systématiquement, on a peur aussi. Maintenant, on se dit, on va avoir un entretien professionnel. Est-ce qu'ils vont se rendre compte? Est-ce que... Et voilà, à chaque fois, c'est ça, c'est des questions sur la religion. On vous interdit même de porter un petit bandeau. Et voilà, c'est devenu vraiment, cette loi est venue creuser complètement un fossé. Et il n'y a plus de dialogue et plus d'échange.
Et donc, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que donc, toutes ces réactions-là de la part d'administration de l'État français, tu parlais de mairie, etc., c'est des réactions complètement illégales, puisqu'ils sortent du cadre de la loi. Et du coup, c'est fou, parce que déjà, nous, on est vraiment très critiques sur la loi en elle-même. Mais alors, en plus, quand on voit après à quoi ça aboutit, et donc des mairies, des MJC, etc., peuvent se permettre d'avoir des positionnements complètement illégaux et discriminatoires, et c'est quand même dingue, quoi.
Voilà, ouais. Donc, faut savoir que cette nouvelle laïcité a vraiment dépassé son cadre. Donc, comme on a vu là avec Mélanie dans le cadre du travail, pour des banques privées aussi, à qui on a refusé l'accès, des usagers, des jeunes voilés à qui on a refusé l'accès aux banques, alors qu'elles fréquentaient régulièrement la banque. Dans tout ce qui est social, également des assistantes sociales. Donc moi, j'ai eu des échos comme quoi des assistantes sociales demandaient justement quand elles recevaient des personnes en difficulté. Oui, mais vous pensez pas que votre voile, justement, vient appuyer les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui? Donc c'est vrai que là, je veux dire, ça atteint un niveau où c'est vraiment absurde.
Et peut-être on va faire une petite pause musicale avec un groupe qui s'appelle Babsley et revenir ensuite sur d'autres témoignages aussi pour justement montrer la différence entre le positionnement du gouvernement qui se félicite de cette loi, dit que tout s'est bien passé à part quelques cas difficiles et c'est quoi dans la réalité. Donc voilà, après Babsley.
Ты кручи, ножка в сердце сидит осколок.
Vous êtes toujours sur Dégenré, donc sur Radio Kaleidoscope 97 FM. Avant, on parlait justement des... en plus de l'application concrète qui a été faite de la loi Stasi, comment ça peut être utilisé dans d'autres sphères que l'éducation nationale pour harceler et réprimer les personnes par rapport au port du voile? Et du coup, je ne sais pas, Mélanie, toi, tu avais d'autres expériences encore
Un exemple pour le code de la route. Un truc tout bête, en fait. Et je me suis présentée donc à l'inspecteur. Déjà, on m'a demandé de soulever mon voile pour voir si j'avais des écouteurs cachés dans mes oreilles. Donc, je veux dire, même si j'avais des écouteurs, les questions, je ne les connais pas à l'avance, donc ça me servirait un peu à rien. Et j'ai quand même soulevé parce qu'il a vraiment insisté. Et après, il m'a demandé d'enlever carrément mon voile parce qu'il estimait que c'était un examen. Donc, moi, je lui ai dit, c'est n'importe quoi, parce que j'ai passé un examen à la fac, on ne m'a jamais demandé d'enlever le voile. Donc, voilà, c'est plein d'exemples comme ça. Récemment, j'ai entendu aussi que l'hôpital, maintenant, c'est laïque. Cette loi a vraiment empiré les choses et des gens se permettent tout et n'importe quoi. Ils sortent la loi à toutes les sauces et hors contexte.
Donc moi, j'ai également le cas des parents d'élèves, donc des mamans qui portent le foulard, qui ont souhaité accompagner leurs enfants donc lors de sorties scolaires et à qui on a absolument refusé d'accompagner les enfants, soi-disant parce qu'elles allaient faire du prosélytisme, faire du bourrage de crâne, donc alors qu'elles souhaitaient uniquement accompagner leurs enfants et qu'elles le faisaient déjà avant que cette nouvelle loi sorte.
Et alors quand même, sur ce genre d'exemple, moi ça me donne envie de rebondir, parce que il y a aussi une loi actuellement qui est en train de passer, une affreuse loi proposée par Sarkozy sur le suivi social, soi-disant, des gens. Donc déjà, Sarkozy, il sous-entend que les gens qui ont plus de difficultés sociales, c'est forcément des gens dans les banlieues, alors plutôt issus de l'immigration, etc. Enfin, lui, il fait plein de raccourcis comme ça. Mais par exemple, il est en train de vouloir mettre en place en fait des punitions, enfin des sortes de réprimandes pour les familles des gens par exemple qui pourraient commettre des petits délits, etc. Il y a vraiment tout un discours qui dit que les familles, par exemple les familles dans les banlieues et notamment des familles issues de l'immigration, ne sont pas présentes auprès de leurs enfants, les laissent faire n'importe quoi et que c'est pour ça que il y a énormément de délinquance. Enfin voilà, il y a tout un discours comme ça, et à la fois des mères qui veulent accompagner leurs enfants en sortie scolaire, de l'autre côté on leur dit non, vous n'avez pas le droit parce que vous n'êtes pas comme il faut, etc. Et c'est, enfin vraiment, je trouve que c'est d'un côté comme de l'autre, on réprime des gens par rapport à leur culture, à leur origine, etc. Et enfin, on est vraiment dans des logiques racistes, quoi, il n'y a pas de doute.
Donc ouais, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, je pense que le but surtout des politiciens, c'est vraiment de réguler la vie des gens. Comme la loi là, sur la laïcité, c'est vraiment réguler la manière de penser, la manière d'agir des gens. Donc on n'est même plus dans un pays, je veux dire, de liberté. On n'est même plus au pays des droits de l'homme, comme on dit, et de la femme. Mais je veux dire, il y a vraiment derrière, ils veulent vraiment faire un suivi, mais ce n'est pas un suivi qui va aider les gens, comme ils disent, soi-disant, à trouver des solutions à leurs problèmes et vraiment à avancer au niveau social, professionnel. C'est plutôt de les encadrer dans leur manière de penser et de régenter leur manière de penser. Et je trouve ça vraiment dépasser les limites, surtout pour des politiciens qui sont censés être totalement neutres face au peuple.
Oui, alors là, sur ces situations, donc toi, tu voulais rajouter des choses, Mélanie. Voilà, je pense que c'est important, enfin, c'est donner beaucoup d'exemples, mais je crois que la plupart des gens ne se rendent pas compte de à quel point c'est grave ce qui est en train de se passer. Donc je pense que des exemples, des fois, ça fait prendre conscience de ça, quoi.
Ça me fait penser à ce qu'elle disait Saïda tout à l'heure, esclave, c'est-à-dire qu'on n'est plus traité comme des êtres humains. Comme par exemple le suivi social, on se dit telle personne elle est comme ça, on cherche même pas de discuter avec la personne, on stigmatise, les mamans, les parents issus de l'immigration ne savent pas élever leurs gamins, et on cherche même pas à discuter avec ces personnes, on les juge, Et en plus, ce qui est grave, c'est vraiment des personnes de la haute, enfin, je veux dire, politique, qui nous gouvernent. C'est des gens au gouvernement. Donc, forcément, les gens, quand ils voient ça, bah, ils essayent de suivre un peu. C'est des lois qui sont votées. Donc, c'est vraiment quelque chose de grave. C'est plus, voilà, c'est plus le pays des droits de l'homme. Y a plus, enfin, les lois avant étaient très belles. Genre, les lois sont belles, mais celles qui sont en train de se rajouter, elles effacent toutes les lois d'avant. Il n'y a plus de liberté et on stigmatise les gens, on les juge à leur apparence physique, on se permet d'attaquer leurs valeurs surtout, leurs choix de vie, et c'est ça qui est très grave.
Ouais, alors pour voir jusqu'où ça va en fait, je sais pas comment dire, les effets, non, comment on dit, les dommages collatéraux, entre guillemets, de cette loi. Nous, on avait trouvé un rapport du collectif contre l'islamophobie qu'on peut trouver sur Internet. Et alors, ce rapport, il est loin d'être exhaustif. En fait, il recense juste des cas qui leur ont été signalés ou qu'ils ont trouvé dans les médias. Et alors moi, en le lisant, j'ai halluciné, alors que c'est pas la première fois que je lis des choses sur cette loi, mais ça va très loin. Alors voilà, comme tu racontes en fait l'exemple dans l'auto-école, il y a plusieurs en fait situations comme ça signalées dans des auto-écoles, dans des universités, énormément en fait, où alors que ces lois s'appliquent pas du tout à l'université, où des étudiantes n'ont pas été alors qu'elles avaient déjà payé les frais d'inscription, elles n'ont pas été acceptées en inscription pédagogique, enfin, genre plein de choses comme ça. Elles ont été exclues du cours par leurs profs. Alors, enfin, voilà que c'est vraiment illégal, que cette loi là, elle s'applique pas du tout à l'université. Et voilà. Ensuite, il y a voilà des discriminations au travail et tout, mais même dans les administrations. Là, il y a un exemple. D'un agent communal qui à la mairie de Bagneux, qui a refusé l'accès à son bureau à une jeune femme voilée avec laquelle elle avait rendez-vous pour une demande de logement, et elle lui demandera de retirer son voile et déclarera en avoir marre des gens comme vous. Et donc, comme la victime, elle n'a pas pu obtenir gain de cause, elle s'est rendue au commissariat de police afin de déposer plainte, mais l'officier de police n'a pas accepté l'enregistrement d'une plainte, mais seulement d'une main courante, en gros, ce qui permet pas l'ouverture d'une enquête. Et voilà. Et en fait, l'officier de police, il a refusé avec l'argumentation que il y aurait un décret loi qui permettait à l'agent communal d'agir comme bon lui semble. Voilà, c'est ce qui est évidemment faux, mais voilà. Enfin, il y a même en fait à un moment, comme c'est fait, en fait, il y a même pas. Enfin, c'est comme s'il y avait aucune possibilité même de faire respecter les limites au moins de cette loi, enfin de se protéger. Et j'ai l'impression, une fois que cette loi, elle est là, alors qu'elle, à un moment, elle est dans un cadre précis, et ben en fait, ça ouvre la porte à plein d'autres choses, enfin généralement. Et voilà, il y a même, enfin, les flics qui s'en foutent. Il y a dans ce rapport, il y a des exemples dans les préfectures, dans les administrations, enfin dans des institutions de l'État, c'est vraiment. Enfin, j'ai pas envie de dire des dérives parce que c'est trop. Enfin, ça fait comme si il y avait juste ce côté l'application illégale de la loi que je critique en fait. Alors que voilà, cette loi en elle-même, elle est déjà problématique. Mais voilà, en fait, ça, c'est vachement plus large le problème qu'elle pose.
Moi, je voudrais rajouter que la plupart des lois. En fait, je sais pas si c'est un effet de mode, mais ça s'applique seulement à une seule religion. J'ai pas l'impression qu'elle s'applique à d'autres religions. Parce que, par exemple, nous, au lycée, quand moi, je me permettais de mettre un accessoire de mode, par exemple, un béret, moi, j'étais forcément par la suite sanctionnée. Mais si c'était une autre fille qui était d'origine, qui portait pas le voile, elle était pas sanctionnée. Donc, même si on fait, je veux dire, ils ont fait, quand on parle de la loi Stasi, normalement, elle doit s'appliquer à toute religion. Mais là, nous, on a l'impression, mais on n'a pas l'impression, parce que j'ai vécu vraiment ça, elle s'applique que pour nous, les filles voilées. C'est tout.
Oui, c'est vraiment justement cette hypocrisie de la laïcité où moi par exemple je me rappelle très bien quand j'étais à l'école que j'avais différentes professeurs qui portaient des chaînettes avec une croix qui était tout à fait visible. Et ça n'a jamais été remis en cause. Et je pense qu'ils ne s'attaquent pas du tout de la même manière, par exemple, voilà, aux personnes qui portent des croix, enfin voilà, qui se voient quoi, par-dessus leurs habits. Et c'est vraiment cette espèce de truc aussi qui, où à chaque fois, j'ai l'impression, dans les débats et dans la manière dont la loi est faite, c'est que ils font vachement un amalgame entre le prosélytisme et le fait de porter le voile. Enfin, en gros, le prosélytisme, pour résumer vite fait, c'est le fait un peu de faire de la propagande pour convaincre les autres d'adopter la même religion ou les mêmes idées politiques que soi. En fait, c'est pas juste pour les religions. Et en fait, ils considèrent comme si en fait porter le voile était de la propagande en soi, alors que c'est pas considéré de la même façon, par exemple, pour une croix catholique. Donc là, déjà, il y a un problème.
Donc moi, je voulais intervenir sur ça et sur également les mains courantes. Donc par rapport au prosélytisme, c'est vrai que moi, bon, j'ai vécu deux laïcités, on va dire. J'ai vécu celle avant du 15 mars 2004, donc celle où on me permettait de porter un voile dans l'établissement. Et malgré tout ça, malgré le fait que je portais un voile et que j'avais des textes qui me prouvaient que j'avais ce droit-là, j'ai quand même subi de l'harcèlement. Mais c'est vrai que depuis cette loi-là, ça s'est vraiment... empiré, et que à tout bout de champ on m'a accusé de faire du prosélytisme. Le simple fait de mettre un voile, donc comme tu disais, pour eux c'est du prosélytisme. C'est même plus avoir le choix ou le droit de porter un voile, de pratiquer une religion, que ce soit un voile ou une croix, je veux dire. Mais c'est des dérives. C'est vrai, hein, il faut le dire. C'est des dérives, c'est des débordements que malheureusement auxquels on doit faire face en tant que fille voilée. Ou en tant que mère voilée. Par rapport aux mains courantes, étant donné donc que j'ai eu 4 mois soi-disant de phase de dialogue, j'ai eu à 2 reprises, donc le premier jour de ma rentrée, donc le 6 septembre 2004, donc je me suis présentée donc dans mon établissement, on m'a fait un récapitulatif de la loi, on m'a dit qu'on n'accepte absolument rien et que je risquais l'exclusion d'office. À partir de là, je me suis présentée justement dans un commissariat de police pour porter plainte pour discrimination parce que je savais ce qu'elle incluait cette loi et ce qu'elle m'autorisait à faire et ce qu'elle ne m'autorisait pas à faire. On m'a refusé, on m'a dit tant qu'il n'y a pas violence physique, la seule chose qu'ils pouvaient faire c'était une main courante. Le 9 septembre, donc le jour où j'ai mis le bandana, donc j'étais allée en cours. Je me suis quelque peu imposée, on va dire, parce que à partir du moment où j'avais plus un voile et que c'était un accessoire de mode et que tout le monde pouvait porter un bandana, le professeur a refusé de m'accepter en cours tant que je n'avais pas vu le proviseur. Donc il est allé le chercher, le proviseur est venu me chercher. Et en fait, tous les élèves étaient rentrés, la porte de classe était fermée, on était tous les deux dans le couloir. À ce moment-là, il a voulu porter la main sur moi, donc en me frappant, il a levé la main comme pour me mettre une gifle. Et quand j'ai regardé sa main, il s'est rendu compte, je pense, de ce qu'il allait faire et il s'est rétracté. Et ce jour-là, c'est vrai que j'ai vraiment eu peur. Je suis allée de nouveau au commissariat, j'ai voulu porter plainte. On m'a dit non, tu ne peux pas porter plainte. Si tu peux faire uniquement une main courante. À deux reprises, on m'a refusé de porter plainte. Donc c'est vrai que ça allait assez loin. Et malheureusement, pour ça, il n'y a aucun témoignage, il n'y a aucun... Les élèves, ils m'ont dit « Ah, on a entendu crier ah !» Ah bah oui, mais moi, ça ne m'a pas fait rire. Honnêtement, ça ne m'a pas fait rire du tout. Voilà.
Ouais, j'imagine. Et rapidement encore, je viens de me rappeler, en fait, un des exemples, un des cas cités dans ce rapport, et ben il y a dans le secteur privé, dans un hôtel, en fait, une jeune femme qui faisait le ménage dans les chambres, en fait, qui a été licenciée parce que un touriste américain s'était plaint, il avait aperçu dans sa chambre et donc il avait eu peur après dans le contexte de après en septembre et tout, et donc elle a été licenciée. Et alors, pour voir jusqu'où ça va, l'amalgame qui est fait et sur lequel joue aussi cette loi. Alors, avant de continuer là-dessus, on va faire une petite pause musicale encore avec Coco Rossi, West Side.
I'm
Vous êtes toujours sur Dégenrés, 97 FM. On est toujours donc avec Bouchra, Saïda et Mélanie, je dirais malheureusement, ont plein de choses à nous raconter sur toutes les discriminations qu'elles ont, qu'elles subissent quotidiennement par rapport à cette question de voile. Et du coup, on parlait donc du moment où est arrivée la loi Stasi, mais c'est vrai que les discriminations, elles ont commencé aussi avant, notamment parce que les médias s'étaient emparés de cette question, dès 94, je crois, où il y avait déjà eu une première polémique autour de ça.
Moi j'ai pas connu ça, mais j'ai connu donc une fille avec qui j'ai discuté, qui est maintenant la trentaine. Elle, il n'y avait pas encore cette loi, et c'était de l'harcèlement tous les jours. Elle était convoquée dans le bureau du proviseur. Tous les jours, on lui posait des questions. Et même quand elle mettait des habits un peu larges, comme les jupes culottes, elle m'avait donné un exemple, on disait qu'elle était ostentatoire. Alors, c'était à la mode à l'époque. Mais parce que c'était elle et parce qu'il fallait qu'elle s'habille en large et que c'était un moyen de se cacher, donc c'est pour dire que même avant cette loi, il y avait déjà des discriminations. Il y avait des exclusions aussi. Il y a des jeunes filles qui se sont fait exclure. Mmh. Donc, je ne comprends pas. Il n'y avait pas de loi. Et quand même, il y avait déjà de l'abus, en fait. Donc, maintenant qu'il y a cette loi, bien sûr, les proviseurs, ils ne se sont pas gênés, quoi. Mmh. Comme déjà avant, ils en profitaient. Maintenant, c'est autorisé. Donc, ils en profitent encore plus.
Et du coup, je crois que tu avais, Saïda, justement, tu avais un peu déjà des chiffres, parce qu'on parlait du discours officiel qui disait que tout se gérait très bien, qu'il y avait eu très peu de problèmes, machin. Et je crois que votre association peut témoigner que ce n'est pas du tout le cas.
Voilà, donc tout à fait. D'après les politiciens, c'est magnifique. Donc le bilan qu'ils font de cette loi, c'est quelques cas difficiles, comme ils disent. Faut savoir que le comité, donc dès qu'il s'est mis en place, c'était début avril 2004, donc dès qu'il s'est mis en place et qu'il a lancé donc son numéro vert, on a eu des appels donc de gens qui savaient pas trop comment gérer la loi. Donc on a recensé 806 élèves qui ont subi les effets pervers de cette loi, 47 exclusions définitives et plusieurs qui il y a des élèves qui ont carrément quitté le cursus scolaire justement pour pas avoir à subir les humiliations et l'harcèlement, des personnes qui directement ont commencé par correspondance, des personnes qui sont allées étudier à l'étranger pour pas subir tout ça. Donc c'est vrai que moi personnellement, pour que les politiciens se permettent de dire que 806 élèves recensés, on sait pas combien de cas n'ont pas été recensés, mais je pense que on atteint quand même les milliers, pour dire quand même que 806 élèves, c'est quelques cas difficiles, 47 cas d'exclusion, c'est quelques cas difficiles, je trouve quand même qu'ils y vont un petit peu fort.
C'est ça, hein. Peut-être eux, ils sont contents que sur les 806, il y a que 47 qui ont insisté pour continuer à porter le voile et donc où la procédure, elle débouchait sur un conseil de discipline et une exclusion. Enfin, peut-être il se félicite de ça, je sais pas. En tout cas, j'ai perdu le fil. Ah ouais, c'est aussi ce qui est pas dit en fait dans ce bilan très très positif, c'est ce que tu évoquais aussi déjà tout à l'heure, c'est cette phase de dialogue entre guillemets en fait, qui était à la base l'idée de proposition réciproque, enfin venant des deux côtés, une phase un peu tampon comme ça, et qui en fait de ce que j'ai compris en fait des témoignages que j'ai lus, était plutôt une phase assez horrible, pas du tout de dialogue et souvent d'isolement et d'harcèlement en fait et de pression sur les filles. Je sais pas si vous voulez plus témoigner de comment ça s'est passé.
En fait, moi, il n'y a pas eu du tout de phase de dialogue. C'était ou j'enlève le voile ou sinon c'était conseil discipline. Parce que normalement, déjà, on doit avoir des avertissements. C'était même pas des avertissements, directement au conseil de discipline. En plus, le harcèlement, ça a duré 6 mois. Pendant 6 mois, à chaque fois que j'étais en DS important, on me convoquait. À chaque fois, on me faisait la morale pour pouvoir, si je pouvais enlever le voile. Ils ont réussi même à manipuler des élèves. Donc quand j'étais absente, donc on faisait des métiers, on faisait des réunions carrément, on parlait de parce que j'étais soumise, ou ils demandaient aux élèves est-ce que j'avais un nouveau copain qui me forçait à mettre le voile. Et ça a duré comme ça. Maintenant, après la deuxième année, en fait, presque ils prenaient une règle pour mesurer mon accessoire, un bandeau, et tous les matins on vérifiait si ça dépassait pas. Pratiquement tous les matins, à chaque fois. Donc, on était, je crois, trois élèves. Et à chaque fois, on vérifiait si ça dépassait ou pas. Et pourtant, il y avait d'autres élèves. Elles avaient des bandeaux, des accessoires nettement plus larges. Et elles n'avaient pas rencontré des difficultés.
Mmh, ouais, c'est vraiment, en fait, un contrôle au faciès, en fait, des discriminations comme ça.
Donc moi je voulais intervenir donc par rapport au comité, donc c'est vrai qu'on a eu pas mal d'échos comme ça justement, où soit les proviseurs ou les directeurs des collèges refusent d'office d'accepter des élèves voilés, donc ça c'était plus pour ce qui est établissement privé, donc qui sont même pas, je veux dire, en plus dans le champ d'application de cette loi. Après pour ce qui est des établissements publics, donc il y a eu justement des cas comme ça où ils autorisaient un bandeau, mais il fallait qu'il fasse moins de 5 cm, d'autres moins de 13 cm carrés. Donc c'est vrai que c'était vraiment des calculs, c'était limite, ils prenaient la règle effectivement. Et c'est vrai que à partir du moment où ils savaient que cette personne portait un voile en dehors de l'établissement, ça je veux dire, ça rimait carrément à un contrôle de police.
Alors, par rapport à ce que tu racontes, Bouchra, sur ces questions de est-ce que t'as un nouveau copain qui t'impose le voile, ou ton père ou ton frère ou tout ça, en fait, et ben c'est un des arguments qui est beaucoup beaucoup revenu dans les débats, c'était derrière il y avait les méchants islamistes et tout, et les filles elles étaient que des victimes, et ça ne pouvait pas être un choix. Et alors, par rapport à ça, moi j'ai vraiment halluciné quand j'ai lu qu'il y a eu des cas où, en fait, dans le chef d'établissement, en fait, il a fait appel, il a appelé les parents pour leur demander de contraindre la fille à enlever le voile. Et dans un autre cas, il a convoqué le frère aîné d'une élève afin de lui demander de la contraindre à enlever le voile, ce qu'il a refusé, le frère, heureusement.
Moi
je trouve ça hallucinant, c'est exactement l'inverse de de mettre des pressions, d'essayer de justement de se servir de soi-disant structure hiérarchique de domination comme ça, en fait, pour la contraindre à enlever son voile, alors que avant on avait mis en avant que c'était bien, pour ça que on créait cette loi, pour protéger les filles, en fait, de leur méchant grand frère, de leur méchant père, enfin je sais pas. Et moi ça m'a vraiment fait halluciner, en fait, quand j'ai lu ça.
Y a des fois, on m'a même culpabilisée par rapport, on m'a dit, t'as pas honte de porter le voile, alors qu'il y a des femmes en Irak, elles sont forcées à porter le voile. Et ici, on est dans un pays de liberté, t'as le choix de ne pas porter le voile. Donc, comme si je devais enlever mon voile pour alléger la conscience de certaines militantes non pratiquantes, parce que moi je suis pratiquante, et peut-être, même si elle habite en Irak, elle n'est pas forcément pratiquante, c'est leur culture.
Et juste, peut-être mais je crois que Mélanie, tu avais aussi quelque chose à dire là-dessus, mais juste, Bouchra, je voulais bien que tu précises, tu disais que toi aussi on avait essayé d'appeler ta mère pour qu'elle intervienne avec toi, ou...
J'ai emmené ma mère, et au cours de l'entretien, on lui a dit est-ce que vous croyez vraiment que votre fille, elle va trouver un boulot? Elle a même pas trouvé un stage. Qu'est-ce qu'elle va trouver? Comment elle va faire pour trouver un boulot? Et ma mère, en fait, suite à cet entretien, elle a culpabilisé. Elle a essayé de me faire changer d'avis, parce qu'elle avait peur que je puisse pas travailler, parce qu'on lui a dit t'es voilée, maintenant t'es soumise, tu restes à la maison, en gros, tu fais le ménage et du couscous, c'est tout.
Donc moi, j'ai lu récemment un témoignage dans un livre, en fait, où je réagis justement à cette histoire de grand frère et tout ça. Donc c'était une jeune fille qui était frappée à la maison par le grand frère avant de porter le voile, Voilà. Donc bon, voilà, elle était maltraitée par le père et le grand frère. Et à l'école, il le savait, donc il voulait l'aider, soi-disant, enfin voilà. Et cette jeune fille a décidé de porter le voile d'elle-même et parce que justement, elle voulait sortir de cet enfer, elle se sentait bien, c'était sa pratique. Et là, inversement, donc les responsables scolaires qui voulaient l'aider, soi-disant, parce qu'elle avait été maltraitée par le grand frère, bah, puisqu'elle portait le voile, et ben là, ils se sont mis à convoquer le grand frère qui frappait la sœur pour dire à sa sœur d'enlever le voile. Donc voilà, soi-disant, la fille est contrainte à porter le voile, machin. Elle, c'est d'elle-même, elle se sentait bien et c'était son moyen de s'en sortir parce que son grand frère, après, ne la touchait plus parce qu'il l'a respectée. Et là, les responsables scolaires se sont mis du côté du grand frère et du père.
Et là, c'était plus grave qu'elle se fasse frapper, quoi, cette fois-ci. Ouais. Non, mais c'est vraiment fou. Mais je crois que... Ouais. Donc, on va peut-être faire une dernière pause musicale avant de conclure cette émission. En tout cas, bon, moi, quand même, c'est peut-être une pauvre blague, hein, mais quelque part aussi, enfin voilà, bah, toutes les trois, vous êtes là aussi pour parler, pour témoigner de votre vécu. Et à un moment aussi, je veux dire, bah, est-ce que voilà, des femmes aussi qui viennent comme ça parler à la radio, qu'est-ce qu'elles ont soumises? Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est aussi questionner tout cet imaginaire-là et ces préjugés des gens, quoi. Donc, une petite pause musicale.
Ouais, c'est quoi le problème? C'est quoi que t'as dit? Que t'aimais pas les étrangers et leur emblème? Et c'est quoi qui te gêne? Qu'on compatisse avec ta haine, que l'on soit complice du bordel ou qu'on ait pas les mêmes gènes? Mais c'est quoi qui te gêne? Qu'on ait le même Dieu et pas les mêmes prières? Que nos mêmes jeux soient pas les mêmes qu'hier? Dis-moi, c'est quoi qui te gêne? Qu'on bouffe ton oxygène ou que nos discours engagés n'aient jamais les mêmes thèmes? Eh, c'est quoi qui te gêne? Tu peux me dire, vas-y, n'aie pas peur, qu'on ne pense pas de la même couleur ou que l'on naisse dans l'erreur. Eh, c'est quoi ce qui me gêne? C'est de savoir que sans le regard, t'infligerais pas les mêmes peines, tu serais pas le même bâtard. C'est quoi ce qui me gêne? C'est que tout ce qui te gêne, ce soit ce que j'aime.
C'est quoi l'odeur ici? C'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter, c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur picore et on les fout dehors. C'est quoi l'odeur ici? C'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter, c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique l'or et on les fout dehors.
Alors c'est ça qui te gêne? Vas-y, avoue que nous la fille on la joue. S'entendre notre jouet, c'est quoi qui te gêne? Que notre pays soit la France, mais que ce soit dans nos bleds respectifs qu'on passe nos vacances. Dis-moi, c'est quoi qui te gêne? Qu'on soit tous hommes, bien qu'on ait pas les mêmes douleurs et que ce soit pas dans les normes. Non mais c'est quoi qui te gêne? Qu'on soit pas voisins de palier, que nos gosses fréquentent les mêmes écoles et gravent sur les mêmes cahiers. C'est quoi qui te gêne? Qu'on ait pas les mêmes colères, qu'on ait pas le même salaire pour bon nombre d'heures de galère. Eh mais c'est quoi qui te gêne? Qu'on ait tous les mêmes pieds bas. Tu préférerais qu'on passe de la vie à trépas? Tu sais quoi? Ce qui me gêne, c'est tout ce qui te gêne, ce soit ce que j'aime.
C'est quoi l'odeur ici? C'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter, c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique l'or et on les fout dehors. C'est quoi l'odeur ici? C'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter, c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique l'or et on les fout dehors.
Je te dis ce qui me gêne, c'est quand je cherche un boulot. J'ai d'office alors que ma pinko rame pour une place au McDo, ouais. C'est ce qui me gêne, c'est quand je marche dans la rue. Les kiss des me sourient et sont mes potes sur rue. Ça me gêne quand dans le bus tu laisserais ta place à ma grand-mère. Elle laisserait la merde, ma copine, avec tous ces sacs en galère. C'est ce qui me gêne, c'est que la couleur te dérange. Mais toi t'es même plus blanc, tu vires à l'orange. Ça me gêne qu'avec un CAP je touche 15 000 balles par mois. Et elle avec ses 7 endroits, elle en touche même pas 3. Ce qui me gêne, c'est qu'à la manifestation, Mouloud était au poste alors que je foutais le bordel à la nation. Comme toi, je suis blanche, j'ai pas le même discours. Forcé d'être franche face aux racistes dans la basse-cour. C'est quoi ce qui me gêne? C'est tout ce qui te gêne, ce soit ce que j'aime.
C'est quoi l'odeur ici? C'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter, c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique leur or et on les fout dehors. C'est quoi l'odeur ici? C'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter, c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique leur or et on les fout dehors. C'est quoi l'odeur ici? C'est dingue, ça sent trop fort. Préviens les autres, vite, urgent, besoin de renfort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les supporter, c'est déjà trop d'efforts. Alors on leur pique l'or et on les fout dehors.
Alors c'était Diams, le morceau C'est toi qui me gêne. Et on arrive du coup à la fin de notre émission, ça va toujours trop vite. Et un peu nous pour, un peu dans un truc de conclusion sur donc notre positionnement un peu féministe par rapport à cette loi, on voulait un peu reprendre ce truc où souvent ça a été posé du coup dans les débats comme un truc entre choisir de mettre une priorité sur un combat antiraciste ou un combat antisexiste. Et pour nous, c'est vraiment une fausse manière de poser la question parce que, comme on l'a un peu vu, eh ben, cette loi elle est et sexiste et raciste. Et c'est vraiment ce truc de voir toujours le sexisme chez les autres, enfin de faire une différence, quoi. Et ça, bah, par exemple, on peut le voir dans la médiatisation de certaines choses. Par exemple, au même moment, comme on a parlé dans les médias par exemple, des viols collectifs, donc du problème des tournantes, etc., on en a parlé que dans les banlieues, comme c'était un fait qui existait que récemment et que dans les banlieues, alors qu'on sait, par exemple, par des statistiques que c'est aussi quelque chose qui est très courant dans les campagnes. Enfin, et bon, pas que là, quoi. Et que, voilà, le viol, c'est un problème de la société en général. Et voilà, effectivement, c'est important de toute façon de dénoncer les violences envers les femmes partout, quoi. On dit pas le contraire. Mais c'est cette manière de le faire qui est très deux poids, deux mesures. Et donc, au même moment, par exemple, il y a eu le meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat. Donc, voilà, un meurtre dans un cadre de violence conjugale. Et là, dans les médias, on a parlé... que c'était un crime de l'amour, un crime passionnel. Tout d'un coup, c'était quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Et par exemple, je sais pas, ils ont jamais parlé d'un truc de culture française de la violence conjugale, alors que par exemple, Bertrand Cantat, il avait bu beaucoup d'alcool, quoi, quand il y a eu le meurtre, que, je sais pas, on va dire que l'alcool, ça fait partie aussi de la culture française. Mais ça, ça n'a jamais été repris. Enfin, c'est vraiment une façon différente de traiter les violences sexistes selon d'où elles viennent.
Voilà, et alors, par rapport à notre émission, si vous avez envie de réagir, nous écrire quelque chose, nous poser des questions, ou voilà, alors, vous pouvez nous écrire soit un email à degenre@boom.org, degenre avec deux E à la fin, et @ boom, boum.org. Ou sinon par voie postale à Radio Kaleidoscope, boîte postale 422 38018 Grenoble CEDEX 1. Alors boîte postale 422 38018 Grenoble CEDEX 1. Oh là là, autant de chiffres. Et alors sinon pour cette émission nous on s'est servi en fait de quelques enfin voilà de textes et tout, on voulait un peu donner nos références. Alors il y a eu un numéro des Nouvelles Questions Féministes qui est une revue féministe voilà qui est paru sur le thème sexisme et racisme, le cas français, et c'est le numéro 1 de 2006 de cette revue. Sinon, il y a le collectif contre l'islamophobie, dont le rapport on peut le trouver sur internet sur www.islamophobie.net. Et ensuite
pour le comité 15 mars, donc on a un numéro vert, donc pour les personnes qui souhaitent nous contacter, soit parce qu'elles ont rencontré une difficulté, donc elles peuvent nous appeler au 0800 15 03 04, donc 15 03 04 comme le 15 mars 2004. Et puis sinon pour le site, donc on a un site également, bah vous allez sur le moteur de recherche Google et puis vous tapez comité 15 mars et vous nous trouverez facilement.
Voilà, et vous avez aussi publié un livre qui s'appelle, enfin voilà.
Donc oui, donc c'est un livre qui recense donc différents cas qui de jeunes exclus, mais surtout qui fait le bilan de cette loi. Donc il s'intitule Rentrée 2004, une vérité dévoilée. Donc il recense en fait comment cette loi, enfin sur quelle base cette loi est partie, comment elle a été votée, et puis qui fait le bilan de son application. Voilà.
D'accord. Donc, on va pas tarder à conclure. Donc, est-ce que vous aimeriez faire passer un message par rapport à cette situation qui, on l'a constaté, est très difficile? Je crois qu'en quelques mots, si vous avez envie de faire passer un message.
Donc, déjà, merci pour nous avoir invités à l'émission. Ça nous a permis de nous exprimer. Donc, j'espère que les gens qui écoutent ont bien compris ce qu'on pouvait subir, ce qu'on a subi. Et je veux dire aussi aux jeunes filles victimes de ces choses-là, parce que souvent elles restent dans le silence et elles ne le dénoncent pas. Et c'est très important donc de dénoncer, parce que nous on en a parlé, mais on peut pas parler au nom de toutes. Donc c'est très important de dénoncer déjà par le comité du 15 mars. Et dénoncer, parce que ça sert pas. Enfin souvent on dit ça sert à rien de dénoncer, mais si on est beaucoup à dénoncer, ça a un poids très important.
Voilà, donc moi, ce que j'aurais à dire, déjà d'une première part, je vous remercie de nous avoir invités. C'est vrai qu'on ne nous donne pas souvent la parole, donc là, c'était l'occasion. J'espère qu'il y aura d'autres prochaines fois. Donc c'est vrai qu'on incite, on invite plutôt les personnes victimes de discrimination à nous contacter justement par rapport à cette loi. Déjà qu'elles ne restent pas dans le silence, pour qu'on puisse leur apporter un soutien psychologique. Donc c'est le rôle aussi du comité, un soutien pour les jeunes exclus, un soutien pédagogique et puis un soutien juridique si c'est nécessaire.
Moi, je voulais également vous remercier, parce qu'on a pris l'habitude...
merci d'être venu.
C'est ça, merci à vous.
Parce qu'on a pris l'habitude, en fait, les médias, ils étaient tout le temps contre nous. Donc c'est rare quand on rencontre des personnes qui viennent vraiment sur le terrain, qui s'intéressent vraiment à des cas et que ils généralisent pas. Et je voulais aussi inciter toutes les sœurs et toutes les personnes, les filles voilées, en fait, de ne pas subir cette discrimination et justement ne pas rentrer dans leur jeu. Et n'hésitez pas à porter plainte et contacter le comité du 15 mars. Il ne faut pas cesser.
C'est souvent notre mot de conclusion. À la fin de nos émissions, il ne faut pas se laisser faire.
Et ben voilà, et c'est la fin. Alors, à dans 2 semaines. Et bonsoir. Et on t'annonce le morceau.
Ouais. Et ben on se quitte avec un morceau du groupe américain The Gossip qui s'appelle Jason's Basement.